Alors, je voudrais t'interrompre, Tienne, parce que je sais sur quoi tu vas arriver, qui me paraît extrêmement fort. Hein. D'abord, j'ai beaucoup aimé, parce que je n'avais pas entendu, avec notre surdité à tous, ton mot « passant », c'est magnifique. Hein. Je vais peut-être le mot « passeur » pour que tu sois la passante de ce soir et que tu nous fasses entendre ce que a été cette vivre dans ce régime. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que tu oublies effectivement un point qui est important, heureusement que tu me l'as dit, c'est que ce grand-père éditeur qui parle effectivement le français, tu m'as dit qu'effectivement, ce qu'on racontait de lui, c'est qu'il était mort.
C'est vrai.
Il était mort, c'est-à-dire que au fond, on ne savait pas exactement pourquoi il était mort. Je ne sais pas l'effet que ça fait de dire que le grand-père est mort sans savoir pourquoi il est mort. Mais en fin de compte, il n'était pas mort. Et il a laissé la famille, ta mère, il a fallu laisser sa famille avec 4-5 gosses, je crois. Hein.
Okay,
ouais. Et il est parti avec sa maîtresse, quand même, à Taïwan. À une époque où Mao, je pense, est très strict sur la sexualité, on peut dire voilà un homme non seulement libéré pour la langue, mais aussi libéré quant à sa vie sentimentale, d'une certaine manière. Hein. Alors, c'est là que je te laisse revenir sur donc la place de ce grand-père, la place de ton père, enfin la place de ce grand-père liée au français, à l'édition, au livre, etc. La place de ton père autrement, c'est-à-dire cette porte fermée et cette ruse, d'une certaine manière, du gouvernement chinois à faire lire cette littérature, mais ce n'est pas pour autant qu'il est porteur de cette littérature. Il la lit pour informer. Il n'y arrivera rien à lui, hein, puisqu'on lui permet de lire ses ouvrages. Par contre, cet oncle, effectivement, lui, qui est tombé dans le piège, comme tu dis, de pouvoir critiquer le régime alors qu'on lui propose critiquer le régime et comme ça vous nous apprendrez quelque chose, tu nous as dit effectivement ce qui lui est arrivé. Je t'ai juste retenu là-dessus parce que ce que tu vas nous dire là, je trouve, est extrêmement fort. Hein. Mais donc, je ne sais pas à quel âge tu as à ce moment-là quand tu vas nous raconter cette anecdote.
D'accord.
Combien ?
J'étais en première année de la fac, j'avais 19 ans.
T'as 19 ans. Bon, donc c'est là que tu vas nous raconter, tu es en train de t'entraîner au français, si je comprends bien, et tu récites des verbes. Veux-tu bien nous revenir sur ce moment qui est extrêmement fort, je trouve.
Oui, et donc l'oncle qu'on a récupéré... qui savait plus parler c'était un week-end. C'était au début de ma première année de la littérature parce que j'ai passé le concours pour entrer à l'université. Donc j'ai commencé mes études à l'université de Pékin. Et c'était un week-end. Je rendais visite à ma grand-mère maternelle qui venait de récupérer son fils aîné. Hein, celui qui sortait du prison, qui était en réalité un légume. Je précise quand même, c'est un fils que ma grand-mère a eu à l'âge de 14 ans. Et parce qu'à l'époque, les femmes se mariaient très très tôt, et donc tout de suite, c'est son fils aîné. Voilà. Il y avait très peu de différence d'âge entre... Donc ma grand-mère s'occupait de cet oncle, et il y avait que... C'est un appartement de deux pièces. Donc, si je voulais travailler un peu, je devais aller dans la pièce occupée par mon oncle, qui était toujours assis, sur son lit, toujours en train de faire les mouvements comme ça, comme un autiste, ou un, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et moi, j'étais bloquée sur les conjugaisons de mes verbes. En fait, avant de rentrer à l'université, j'ai commencé à mémoriser beaucoup de verbes, mais je savais pas qu'il fallait apprendre les conjugaisons. Donc, dès qu'on a commencé les cours, on m'a dit non, ça sert à rien. Il faut voilà. Donc, je faisais mes exercices. Je parle, tu parles, il parle, et je suis bloquée sur vous, vous parlez, et je suis bloquée, je cherchais dans ma tête, je cherchais dans mes livres, et j'entends l'oncle qui était assis sur le lit qui dit « Vous parlez ». À partir de ce moment-là, je pense que le français m'est rentré dedans. C'est que je peux plus m'en débarrasser. Ma relation avec cette langue, c'est tout ce que je viens de vous raconter.
Voilà. Oui, je trouve c'est magnifique ce que tu racontes là, de ce moment-là, qui est à goûter, comme on le fait là tous, de cet homme brisé comme tu le fais entendre, et qu'il dit « vous parlez, vous parlez ». Au moment où il prend vie, au moment où ce légume, comme tu dis, prend vie, c'est pour, en français, remplir ton trou de mémoire du verbe que tu conjugues. C'est totalement impressionnant, hein. Et, ce qui s'extrait encore de cet homme, même brisé, c'est ça qui lui vient pour soutenir effectivement le moment où toi, tu n'arrives plus à dire ce verbe, hein, cette conjugaison. Il y a un autre moment que j'ai trouvé fort, et tu vois, et je trouve intéressant que tu l'oublies à la fois, parce que après tout, c'est tellement, tu le sais tellement d'une certaine manière que tu n'y penses pas, quoi.
Hein. Je me suis construite là-dedans.
Comment ?
Je me suis construite.
Oui, tu t'es construite, mais tu es tellement là-dedans qu'après tout, tu penses même pas que c'est si important. Enfin, mais tu nous l'as dit, je trouve, tu me l'as fait entendre encore mieux que la première fois que tu me l'as dit, cette présence de l'oncle. Hein. Tu as fait entendre ce fils, effectivement, qui vient d'une femme, effectivement, extrêmement jeune, à 14 ans, elle l'a eu. Hein, donc, et quand même, c'est le fils de ce père-là, éditeur, et qui est parti, hein, quand même, où la langue, effectivement, est importante. La langue autre que le chinois, et des livres autres que le chinois. Alors, il y a un autre événement, je trouve, important, parce que, bien sûr, sur l'île, si maman était là, bon, on comprend bien qu'il n'y a aucun doute, maman est là, elle est dans ton corps, elle est dans tout ce que tu vas nous dire par la suite encore, hein, dans les paroles qu'elle a pu te dire. Mais je trouve d'une manière semblable à ce que tu nous as rapporté de ce moment de parole de cet oncle, il y a un moment, je trouve, de parole de ta mère qui est extrêmement fort aussi. Hein. Bon, effectivement, faut pas fatiguer le cerveau, tu perds ton temps effectivement dans cette littérature, faudrait être une bonne scientifique, je crois que tu m'as même rapporté au fond que tu es une brillante élève, tu réussis en mathématiques comme il faudrait réussir en mathématiques pour être la fille aimée de ta mère, si je puis dire. Et puis à un moment tu fais autre chose, il y a une petite astuce que tu trouves pour que au fond, maman était là, si je puis dire, hein, quand ça s'est passé, et tu as pris une certaine position vis-à-vis de maman, précisément, hein, qui a rapport avec la langue, avec ce français dont tu nous parles.
Vous ne pouvez pas me permettre d'être fille indigne, fille qui n'obéit pas.
C'est-à-dire dans la voix de ces hommes, d'une certaine manière, du grand-père, de l'oncle. Hein.
Voilà. Et on comprend parfaitement pourquoi ma mère avait peur de la littérature.
Voilà.
Voilà, sauf que je voulais pas étudier les matières scientifiques. Je savais que je voulais étudier la littérature française, pour lire Maupassant. Et elle n'était pas d'accord. Et du coup, à partir de la première année, enfin de la dernière année de terminale, à chaque contrôle, à chaque évaluation des matières scientifiques, je rendais la copie moitié remplie, moitié vide. Parce que je ne faisais pas tous les exercices pour avoir, j'ai fait exprès pour avoir des mauvaises notes. Et du coup, comme à l'époque, le classement de chaque évaluation était affiché dans la salle. D'habitude, mon nom est toujours parmi les trois premiers en tête. Et là, après quelques semaines d'oubli des exercices pour les contrôles, et je suis tombée tout en bas de la liste. Et c'est là où ma mère a dit une phrase qui était très importante. « Finalement, tu n'es qu'une fille. » Et elle acceptait que je suis inscrite en littéraire, c'était une astuce de jeune fille un peu rusée. Voilà.
Oui, c'est pas mal, effectivement. Bon, mais tu m'as dit qu'après tout, tu as attendu, je crois, la mort de tes parents et des grands-parents, est-ce que c'est, j'ai bien entendu, pour écrire ces nouvelles?
Quand on a décidé de mettre ce titre, hein, plus j'écris en français, plus je me sens chinoise. Je me suis posé la question parce que j'avoue que quand je me suis entendue, ça m'a surprise sur le moment. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude. J'aime bien dire une phrase, c'est que pourquoi j'écris en français, c'est pour dire des choses que j'arrive pas à dire dans ma langue maternelle. Parce que quand on écrit dans sa langue maternelle, surtout quand on a cette éducation chinoise, communiste, stricte, de l'écrit, voilà. Enfin, il y avait des principes, hein, beaucoup de principes dans mon éducation. Par exemple, le goût de l'effort, par exemple, le devoir d'apprendre, le devoir de réussir, tout ça, on a une autocensure. Je pense que quand j'écris en chinois, j'ai une autocensure. Avant de commencer à écrire en français, j'ai écrit une cinquantaine de nouvelles en chinois que j'ai publiées dans les revues littéraires en Chine, à Shanghai, à Pékin, un peu dans toutes les villes, parmi les revues littéraires. Il y en a encore des gens qui lisent des revues littéraires. Ensuite, j'ai publié un recueil de toutes ces nouvelles, mais je me suis rendu compte que en chinois, je ne pouvais que raconter la vie des Français, qui intéressait énormément les lecteurs chinois. C'est vraiment à partir de la mort, c'est comme si j'attendais, non pas du tout, mais j'ai attendu la mort de mes parents, de mes grands-parents, pour commencer à écrire sur leur vie, sur nos vies, et sur la mienne. Voilà. C'est une sorte de, je dirais, une sorte de précaution, comme si je pouvais me dire, je suis tranquille, j'ai la conscience tranquille, j'ai volé l'intimité de personne. Je n'ai pas vendu l'histoire de ma famille, je ne les ai pas trahis. Mais en même temps, je me rends compte que je ne peux que les raconter en français. Je ne peux que m'adresser aux lecteurs français. C'est comme si cette langue étrangère que j'ai apprise à l'âge de 19 ans me donnait une sorte de liberté. Sans doute, je pense qu'elle m'a libérée de mon autocensure. C'est pour ça que je l'appelle ma langue paternelle. Et je dirais même qu'elle m'a libérée de mon surmoi ou de mon... j'ai lu quelque part que l'inconscient ne fait pas la différence des langues. Il n'a pas de nationalité. Je ne sais pas. J'ai l'impression que quand j'écris en français, je me sens plus proche du réel. Voilà, c'est ça que je ressens. Et il n'y a que en français, je me sens aussi en sécurité pour raconter l'histoire de ma famille, l'histoire de la Chine que j'ai connue, qui est presque disparue. C'est vraiment dans l'écriture que j'essaye de la préserver. Je la garde pour moi dans l'écriture, à travers l'écriture.
Effectivement, d'où cette phrase magnifique que tu as sortie, et c'est toujours super sans comprendre ce qu'on dit d'une certaine manière, hein, Et nous, on l'a relevé comme voulant sûrement dire quelque chose. Et je ne l'ai pas tout de suite entendu, c'est vrai. Plus j'écris en français, moi aussi, je butais là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté, plus j'écris en français, plus je me sens chinoise. Il y a cette différence entre, effectivement, comme tu dis, traduire quelque chose, trouver cette liberté par la langue étrangère, par une langue autre qui te permet de te couper un peu de ce temps de censure, ça, on comprend bien, hein. Mais je trouve, comme tu le disais très justement, où ça a été repris d'ailleurs ce passage, l'éditeur ou le lecteur s'aperçoit que t'es pas une Française, hein. Et je crois que ça, c'est très important. On sent quelque chose, on sait pas comment le dire, hein. Et tu disais toi-même qu'effectivement, ben, tu t'es mis à écrire en français, plus tu as senti quelque chose de chinois qui est difficile d'une certaine manière à traduire, ce que tu as nommé réel très justement tout à l'heure, hein. Alors, peut-être on va revenir sur certaines sensations justement chinoises qui sont là dans le livre. Il y en a sûrement une masse, hein, tu vas pouvoir nous revenir sur. C'est autant parfois des odeurs, hein, du toucher, des images, des couleurs dont tu nous parles, hein, d'une certaine manière. Mais peut-être avant qu'on revienne, nous-mêmes, on a dit que peut-être tu pourrais nous présenter un poème, parce que tu avais dit que quelque chose était de l'ordre de la poésie Tang, as-tu dit, hein. Je voudrais te retenir juste sur tout à l'heure, tu parlais de ces mots, c'était pas des mots passants, mais des mots à mettre sur une feuille, tu disais, hein. Oui, on y reviendra, peut-être pas tout de suite, sur ce magnifique poème Tang que tu commences à mettre.
Je ne coupe pas la parole, je t'écoute. Hein.
Voilà, c'est qu'à un moment dans ton livre, à la page 98 précisément, tu dis que tu écris sur une dalle de pierre et tu t'exerces à la calligraphie. Ça, je ne crois pas qu'il y ait un Français qui soit à Lyon, Paris, à Gap ou à Rambaud comme toi qui va prendre une dalle de pierre et qui va se mettre à écrire, qui va se mettre à faire de la calligraphie. J'ai vu un soir dans une émission, on voyait un Chinois avec un grand pinceau, aussi grand que sa taille. Il le trempait dans l'eau et il écrivait sur la pierre. Et au fur et à mesure, effectivement, qu'il écrivait, tout ce qu'il avait commencé à écrire s'effaçait, puisque c'est écrit avec de l'eau. Hein. Genre de truc qui est vraiment impensable. On n'imagine pas un Français prendre un pinceau, être debout, faire de la calligraphie sur une dalle en pierre, hein, c'est bien ça, c'est une dalle de pierre, écrire. Tu peux nous dire justement cette sensibilité chinoise à l'écriture.
Et quand vous allez dans les parcs de Pékin ou de Shanghai, vous rencontrez souvent des gens qui font leur exercice à la fois gymnastique et de calligraphie et en même temps nettoyer. Donc, c'est ce que tu as décrit, là, le monsieur qui a un pinceau grand comme un balai, en fait, il fait trois choses. Il fait son exercice du matin, il exerce sa calligraphie, il nettoie en même temps. Voilà. Alors, pour revenir sur mon histoire, devant la maison, à la sortie de la maison, j'ai été élevée par mes grands-parents. Devant la vieille maison, qui n'existe plus, qui a été démolie d'ailleurs, il y a une dalle sur laquelle je prenais mon pinceau, je faisais mes exercices d'écriture, mais sans utiliser l'encre, parce que l'encre était chère, et c'est toujours cher d'ailleurs. Quand on fait des exercices, tout comme tout à l'heure, dans le passage que je vous ai lu, on peut pas, c'est du gaspillage d'utiliser des belles feuilles. C'est aussi du gaspillage d'utiliser l'encre. Du coup, l'enfant, il a le droit d'utiliser son petit pinceau avec de l'eau et on écrit sur la dalle. Et puis, s'efface avec le soleil, s'efface et on recommence. Donc, et ça me fait penser à une phrase. C'est écrire, hein, parler, par exemple, parler comme nous, là, c'est enregistré. Je crois que parler, c'est un peu tracer dans le sable. Parce qu'un coup de vent, ça s'efface. Sauf que chez nous, l'acte d'écrire, hein, on peut le transformer de cette manière-là, c'est-à-dire rien n'est définitif, éternel. C'est qu'on trace quelque chose et ça s'efface. Hein. Rien n'est éternel. Par exemple, je vais vous montrer une calligraphie de Wang Shiqi. Wang Shiqi, c'est le plus grand des calligraphes de l'histoire de la Chine. Et on a une œuvre de Wang Shiqi qui est le préface du pavillon des orchidées. C'est-à-dire qu'un groupe de calligraphes qui se réunissent, boire beaucoup toute la nuit, improvisent des poèmes et à l'aube, ils doivent réaliser une belle calligraphie. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la calligraphie de Wang Shiqi qui est considérée. Quand vous parlez de la musique en France, vous pensez à Mozart. Quand vous parlez de la littérature, vous pensez à Molière. Voilà. Et là, en Chine, quand vous parlez de la calligraphie, vous pensez à Wang Shiqi. Alors, je vais vous montrer, parce que tout à l'heure, j'ai essayé, ça a marché. J'espère que ça va remarcher. Alors. Est-ce qu'il est arrivé sur votre écran?
Oui, on voit.
Jacques, tu...
Oui, oui.
Tu veux dire quelque chose?
Oui, oui, ben je vois. Je pense que tu l'associes aussi à ma question qui était de savoir comment on produit une rature en chinois. Tu m'avais dit qu'on l'entourait, mais en fin de compte, en regardant à nouveau ces calligraphies, on rature comme on rature dans toutes les langues. On efface, on met un trait comme à gauche, par exemple.
Oui, on peut aussi, là j'ai pas d'exemple effectivement d'entourer, mais vous voyez bien que des fois on retrace en plus foncé dessus directement. Est-ce que vous voyez ma souris?
Oui, oui.
Et là où je l'ai posé, là, en fait, il a rayé, mais avec un encre plus foncé.
Avec?
Avec une encre plus foncée.
Ah, d'accord, d'accord.
Pour, en quelque sorte, retracer et corriger. Voilà. Et là, il a mis du noir, tout simplement, et puis point, il recommence. Cette notion de rature, c'est-à-dire que quand on apprend à écrire, surtout quand on fait la calligraphie, puisque dans les courantes, on n'écrit pas toujours avec un pinceau, hein, on écrit comme vous. Quand on fait la calligraphie, la première chose qu'on nous demande, c'est de visualiser ce qu'on va écrire avant de l'écrire. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité d'effacer pour que ça ne se voit pas. Gommer, ça n'existe pas. Voilà. C'est qu'on est obligé de garder. Ben, si c'est une faute, il y a une faute. On le cache ou bien on le supprime. On continue.
Oui, c'était à propos, tu te souviens, je t'avais dit cette phrase de Lacan qui, à un moment, rencontrant des jumeaux, les frères Bogdanov, écrit et ils sont surpris de le voir écrire de cette manière si paisible et si régulière. Et il leur dit, ben moi j'ai une écriture non raturée. Hein, tu te souviens, on est parti de ça. Voilà. Là, tu nous fais entendre aussi quelque chose de cet ordre-là, quoi.
D'ailleurs, je me suis posé la question, et je pense que Véronique l'a très bien relevé, est-ce que écrire en français, c'est ma façon de faire des ratures sur ma vie chinoise? C'est pas une certitude, hein, c'est juste une question que je me pose, j'ai pas de réponse. J'ai l'impression que cette façon d'écrire dans la vie, pas sur une feuille, c'est aussi... superposer, enfin, ajouter une langue superposée sur une écriture qui existe déjà.
Oui, mais enfin, tu nous as fait quand même entendre que tu t'es exercé à la calligraphie sur une dalle de pierre. Hein. Je crois que quand même, c'est pas tout à fait ordinaire. Il y a eu une dalle de pierre. Hein. Tu dis d'ailleurs très joliment, hein, c'était sur cette dalle de pierre que je m'exerçais à la calligraphie. Désormais, la dalle de pierre n'existe plus. Ben non, justement, tu viens de nous la faire entendre. Hein. Je trouve qu'elle est plus présente que jamais. elle n'existe plus que dans mes souvenirs. Alors, est-ce que c'est uniquement au niveau des souvenirs ou au niveau, effectivement, des sensations dont tu parles, hein, c'est-à-dire, il y a écrire et se sentir chinoise. Hein. C'est là, peut-être, à ce moment-là, que tu peux revenir sur le poème que, Tang dont tu parlais, puisque c'est cette atmosphère de poème Tang, c'est cette poésie-là, précisément, qui dirait ton... avec sa traduction, bien sûr, qui dirait un peu... se sentir chinoise.
Je ne sais pas s'il vous donnerait la traduction. Bien sûr.
Donne-nous plutôt la traduction, mais on pourra apprécier, bien sûr, la calligraphie, la belle graphie. Voilà, elle est au-dessus, Oléa.
Vous avez sur votre écran ?
Oui, on le voit.
C'est lisible ou pas ?
Pardon ? Si c'est lisible ? Oui, oui, c'est, enfin, pour moi, c'est très lisible. Hein. Pensée d'une nuit calme, c'est ça, hein ?
Voilà, je vais vous le lire en chinois.
S'il te plaît.
Alors, c'est un poème de Li Hai. C'est pour moi, enfin, je pense que pour 80% des Chinois, c'est le plus grand poème de l'histoire de la Chine, de la dynastie Tang. Tang, c'est environ... 618, entre 618 et 907. Et là, il a vécu pas très longtemps, hein, cet homme. Voilà, ça c'est un des poèmes qu'on apprend aux enfants quand on est parent, c'est qu'à l'âge de 3 ans, ou peut-être même avant, dès qu'on commence à savoir parler, à savoir prononcer de manière claire, on nous met ça dans la bouche, enfin plutôt dans la tête, pour qu'on puisse réciter ces poèmes-là. Évidemment, au début, un enfant ne comprend pas grand-chose, hein, il comprend pas, mais ce n'est pas grave, c'est enregistré. C'est un peu comme la dalle sur laquelle j'ai appris à écrire. Je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire, à mon avis. Hein. Là, je vous laisse lire la traduction. Ça, c'est ma petite traduction, hein. Ce n'est pas la traduction. Voilà, quand je parlais des sensations, voilà, dans mon écriture française, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, je crois que mon écriture est assez organique. Voilà, c'est pas quelque chose de cérébral, intellectuel. Voilà, ça, pardon pour l'expression, ça sort de mes tripes. Voilà, il y a une relation avec le corps. Voilà, j'écris avec tout mon corps. Et cette sensibilité poétique, je trouve que elle manque cruellement à l'heure actuelle dans nos sociétés. Et moi, je ne peux pas vivre sans. La sensibilité poétique, je trouve que c'est important. Ça me fait tenir, ça me fait rêver, ça me donne la force. Voilà. C'est quelque chose de très important. Du coup, je pense qu'inconsciemment, je le mets dans mon écriture française, par exemple, les images, le toucher, les odeurs. Les couleurs, c'est vrai que c'est pas toujours très français. Parfois même les expressions, les images que je donne à travers les expressions en français, mais ça n'a rien de français. En fait, très souvent, il y a des gens qui me disent ça. Quand je me relis, je suis assez d'accord. Oui, je pense que ça, justement, vient de mon éducation depuis mon enfance et de cette sensibilité poétique que j'essaye de réaliser à travers l'écriture.